Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Nous allons donc commencer cette...
Il n'y a pas de musique là ?
Cette conférence sur le thème du temps et des jeux vidéo, donc quand le jeu vidéo joue avec notre temps, avec donc pour traiter de ce sujet des profils divers et variés. William de Swing Swing Submarine, Jeanne Rousseau de Spider Games, Fibre Tigre de Miklo et Dave Calvo qui est donc lui pour le coup, enfin elle pour le coup, auteur de romans plutôt que de jeux vidéo, mais qui a aussi travaillé dans le jeu vidéo.
Je travaille toujours dans le jeu vidéo.
Voilà. Donc, un panel varié pour nous parler de ce problème du temps. Pour commencer ce rapport-là, l'idée était de commencer par le rapport, avant de s'attaquer au côté rapport du temps avec le joueur, plutôt le côté créateur. J'avais envie de vous poser la question à tous. Non pas comme hier, on en a parlé en conférence, combien de temps ça prend de faire un jeu vidéo, mais quel temps prend la conception de jeux vidéo dans la vie d'un créateur, en fait, comme à quel point ça vous occupe la création d'un jeu.
La façon romantique de le dire, c'est 100% du temps, puisque je sais pas, mon cerveau est tout le temps pris là-dessus, donc voilà. Mais en vrai, non. Maintenant, je mets du temps pour aussi réfléchir à d'autres trucs que ça. Et en plus, je pense que si on est à 100% sur du jeu vidéo, on n'a pas le temps d'avoir les inspirations qui viennent de l'extérieur, donc il faut laisser du temps pour justement être imprégné de ce qui nous entoure et pas être tout le temps en train de réfléchir, à rester dans le jeu vidéo, parce que si on reste dans le jeu vidéo, on perd quelque chose.
Alors c'est peut-être mon côté féminin, mais moi je le vois comme une gestation, c'est-à-dire qu'effectivement, quelque part, c'est toujours là. Quand on commence à imaginer un univers, imaginer un jeu... c'est dans un coin de notre tête, même quand on n'est pas effectivement à 100% dessus. Et tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va lire, tout ce qu'on va, toutes les discussions qu'on peut avoir vont d'une certaine manière venir nourrir ce projet qui grandit, en fait. Et du coup, même si alors, c'est des gestations qui durent un peu plus longtemps que 9 mois souvent, c'est un petit peu comme ça que je le vois, oui. C'est une sorte de. C'est toujours larvé, dans, d'une certaine manière, quelque part, le temps que le projet aboutisse et finisse par sortir.
En ce qui me concerne, je travaille une heure par jour, par projet. Donc quand j'ai quatre projets, je travaille quatre heures. Et chaque projet me repose d'un autre. Donc, en ce moment, j'en ai quatre ou cinq. Donc ça me prend quatre ou cinq heures par jour. Donc une à deux heures pour faire des mails, du réseau social, parce qu'on est nos propres impresarios aussi. Donc voilà, et ça fait une journée bien remplie. Et il y a aussi cet aspect que William... et Jeanne, on dit en filigrane, on pense tout le temps aux jeux vidéo. Et souvent, on dit entre créateurs de jeux vidéo qu'on devrait se faire rembourser les frais d'eau chez nous, parce qu'on est sous la douche parfois pendant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau chaude dans le ballon, parce qu'on réfléchit et puis « Ah, cette idée-là est bien, est bien, est bien. » Et c'est dommage, on ne peut pas prendre de notes sous la douche, donc il y a peut-être un business à faire là-dedans. Voilà.
Alors moi, j'ai tendance à travailler... plutôt à mi-temps dans le jeu vidéo, parce que je me suis rendu compte il y a quelques années que c'était quand même très 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 violemment exigeant, le jeu. C'est un truc qui te prend totalement, c'est pas simplement faire les jeux, c'est la culture du jeu, c'est jouer à des jeux, c'est penser jeux, c'est voir le monde de cette manière-là. C'est un peu, ça m'a un peu phagocyté à un moment donné, donc j'ai été obligé de mettre beaucoup beaucoup de distance entre les jeux et moi, à ce niveau-là, quoi, même si j'adore les jeux et que c'est une large partie de ma vie. Mais j'ai aussi tendance à beaucoup beaucoup internaliser... tout ce que je fais, donc pour moi c'est la même place que l'écriture de romans finalement, où c'est des choses qui sont en moi en permanence et qui dansent en fait, et voilà, donc des fois il y en a qui sortent, des fois il y en a qui restent, ça dépend, c'est difficile je sais que le jeu vidéo on a tendance à vouloir essayer de quantifier tout le temps, de fragmenter les unités, quoi, la fameuse unit operation, quoi, la manière de voir le jeu comme ça en petit fragment. Moi, je le vois de manière beaucoup plus organique. Voilà. Après, ça dépend des gens, j'imagine. Ça dépend des développeurs, ça dépend des cultures aussi. Quoi. Voilà.
Et du coup, quand tu as travaillé sur des jeux, tu étais plutôt à 100% dedans ou...
Ah ben, y a des moments où j'ai été à 100% dedans, à fond dans la culture, surtout quand tu es dans un MMO. Surtout quand tu es dans un MMO, quand ça a été le cas quand j'étais chez Ankama sur Wakfu, c'était un truc de fou, ça te prenait tout entier. Quoi. T'étais là, tu pensais, les gens, ils avaient quasiment des avatars à eux. Enfin, on avait quasiment des classes de perso dans les équipes de dev et tout. Tu vois, enfin, c'était quand même assez... C'était quand même assez prenant comme truc, quoi. Mais là, ça va mieux. Je suis guéri. Je me suis soigné.
La réunion des développeurs anonymes.
Ah ouais, là, oui, c'était dur. Bonjour, je suis Dave. Moi aussi, je suis développeur.
Nous sommes tous en dépression.
Oh, putain, quelle horreur. Non, mais c'est dur, c'est vrai. Enfin, je veux dire,
c'est le pire métier du monde.
C'est dur de faire des jeux.
C'est le meilleur
en fait.
Métier du monde.
Très dur de faire des
c'est
jeux.
C'est le meilleur, mais c'est le pire.
Ok. Également, j'aurais une deuxième question avant de rentrer vraiment dans la partie comment on utilise, enfin comment on gère le temps dans le jeu et la relation entre le temps de jeu et le temps en dehors du jeu. Est-ce que vous avez, vous, des expériences chacun de temps particulier en tant que joueur, pour le coup, pas en tant que concepteur je pense au... Enfin, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous avez pu expérimenter dans ce domaine? Alors, les nuits blanches, j'imagine, tout le monde a passé des nuits blanches un jour sur un jeu, comme on l'a pu le faire sur des livres. Mais voilà, des expériences comme ça qui vous ont paru marquantes sur le temps que peut vous prendre un jeu. Et notamment sur le rapport que ça peut avoir avec la façon dont sont faits les jeux. Le fait que les sessions de jeu ont souvent des... Enfin, les jeux sont typés en fonction du temps qu'ils vont prendre. Il y a les jeux qui se jouent vite et les jeux qui vont prendre des jours. Et puis le fait aussi que les plateformes ou les jeux eux-mêmes ont tendance à traquer le temps qu'on y vit. Notamment Steam, il y a un temps de jeu passé, il y a un nombre d'heures passées sur les jeux.
Ça fait très peur en fait.
Et dans les MMO, il y a le slash play où tu t'aperçois que tu as passé 2 ans de ta vie dans un monde virtuel. Donc voilà, est-ce que vous avez des expériences de joueurs pour le coup là-dessus?
Moi, l'expérience qui est, je pense, commune à tous les gens qui ont joué à ce jeu-là, c'est l'expérience Civilization. Où en fait, il est 11h du soir, tu lances une partie, t'appuies sur prochain tour, et à ce moment-là, à un moment, tu te rends compte qu'il est 5h du matin, que le jour se lève, et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une sorte d'aspiration temporelle. Ça, oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois. Je pense ne pas être la seule. Après, effectivement, regarder les chiffres sur Steam, c'est parfois un peu flippant, parce que Skyrim, je crois que j'ai plus de 500 heures de jeu, et que quand on fait le calcul de ce que ça représente en temps de vie, c'est un peu inquiétant, ouais. Même si, sur le coup, on ne s'en rend pas du tout compte.
Ça reste des choix. Moi, j'ai pas regardé Lost. Lost, c'est 80 heures. Et des fois, des gens me disent, mais t'as trouvé où le temps de faire ça? Et je dis, j'ai pas regardé Lost. Voilà, j'ai eu 80 heures de ma vie à faire autre chose. Et voilà, donc je préfère largement jouer 500 heures à Skyrim qu'à regarder Lost. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est on a fait un jeu qui s'appelle Outdoor que vous pourrez voir là-bas. Et un jour, on nous a donné nos stats et on nous a dit, vous savez qu'en moyenne, les joueurs jouent 6 minutes à votre jeu. Et j'étais là, j'ai dit, est-ce que 6 minutes? Et les gens disent, non, mais c'est très bien 6 minutes. C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui achètent des jeux qui ne jouent jamais, donc ça fait 0 minutes. Et en gros, finalement, à l'exception de Skyrim, The Witcher 3, qui sont des jeux qu'on joue jusqu'au bout et qui sont vraiment des exceptions dans le monde du jeu vidéo où il y a 1000 jeux qui sortent par jour, eh bien, en général, les jeux vidéo, on n'y joue pas tant que ça et pas longtemps. Voilà. Et je termine sur une anecdote personnelle. Enfin, j'ai deux choses. The Witcher 3, qui est un jeu récent que je vous invite à jouer, qui est très très bon. Il est custom pour à la fois vous tenir en haleine très longtemps, mais pour ne pas bousiller votre vie, parce que chaque quête fait environ 1 heure. Donc en gros, si vous jouez à The Witcher 3, vous lancez une quête, vous savez que dans 1 heure, elle est terminée. Si vous avez cette discipline mentale, vous pouvez passer à autre chose. Ça, c'est très bien. C'est pas super rallonge. Et une autre anecdote, c'est que en général, je suis vraiment un gros nazi de l'heure et j'ai des emplois du temps, j'ai des Excel de partout. Je n'ai jamais manqué un rendez-vous, j'arrive 1 heure en avance, sauf une fois. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Kingdom of Amalur, qui n'est pas trop connu. Et ce jeu m'a absorbé, j'ai tout oublié, je me suis réveillé, j'avais faim. Et pourquoi? Parce que ça a été le début des jeux. C'est un Kingdom of Amalur, c'était un World of Warcraft, il a les ambitions de World of Warcraft, mais avec des mécaniques modernes. Et il avait cette dynamique qu'on a aujourd'hui dans les jeux d'addiction. Et aujourd'hui, j'essaie de ne pas jouer à Candy Crush, tout ça, pour ne pas être accro, mais c'est d'ailleurs un débat très important qu'il faudra avoir, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de régularisation de l'addiction dans les jeux vidéo. Or, elle existe réellement, il y a des gens qui se cassent la tête pour comment faire que les joueurs soient accros à ça, c'est malsain. Et c'était un des premiers jeux qui m'a fait ça, et ça m'a fait prendre conscience qu'il faut avoir un bon réveil quand on joue à un jeu vidéo. Voilà, pour que ça prenne trop de temps.
Bah, un peu comme toi, en fait j'ai 3 choses sur le temps. Ma seule, est-ce que j'ai fait 2 nuits blanches de jeux vidéo? Je suis pas sûr, j'en ai fait une, c'est sûr, c'était sur World of Warcraft le jour de la sortie, et d'ailleurs quand je suis allé dans la douche juste après, j'avais l'impression de ne plus être moi totalement, je savais pas ce que je foutais là, parce que j'étais un elfe de la nuit, donc voilà. Bon, après, c'est passé. Hein, 5 secondes plus tard, c'est passé. Mais sur le moment, ça m'a un peu, voilà, ça m'a fait un peu bizarre. Je ne crois pas avoir fait d'autres nuits blanches sur un jeu vidéo. Dernièrement, peut-être sur le Zelda Switch, où je ne voyais pas le temps passer parce que je courais d'un endroit à un autre et puis je découvrais toujours quelque chose. Donc voilà, j'étais pris dedans. J'ai essayé quelques jeux mobiles du style... pas Candy Crush, mais presque, quoi. Enfin, un truc similaire. Et eux, je trouve vraiment qu'ils sont pas du tout sympas avec nous. Enfin, d'un point de vue du temps, ils se foutent vraiment de notre tronche. Ils font tout pour que on ait des récompenses de temps en temps. Mais surtout, j'ai vu que dans les Candy Crush-like, le jeu fait exprès de nous faire perdre pour nous frustrer, nous faire acheter des trucs. Mais si on continue à jouer en essayant de garder son ego de côté et de dire, quand on comprend que le jeu triche au début, on se rend compte qu'après, il triche aussi pour nous faire gagner, pour qu'on s'en aille pas, parce que sinon, si on revient pas, on paiera jamais. Une fois que j'ai découvert ça, j'ai complètement arrêté et désinstallé le truc, parce que je me suis dit qu'il se foutait de moi complètement.
Être plus précis, pour compreniez le danger, c'est que quand je joue à un Candy Crush, il y a une IA qui comprend votre méthode de jeu et qui s'adapte à votre... D'ailleurs, si vous donnez votre partie à quelqu'un d'autre, il va pas avoir les mêmes mécaniques de frustration. Mais il va jouer avec votre frustration pour que vous jouiez de plus en plus, vous ayez envie d'aller plus loin et vous évidemment passiez à la caisse. Et c'est de la technique de calcul au service du mal. C'est incroyable.
Dave, tu avais expérience de jeu?
Ouais. Alors moi, je vais répondre à un truc que tu as demandé quand même et qui est assez important, c'est comment est-ce que la conception du temps qu'on a par rapport à certaines expériences de jeu, on définit la manière dont on fait des jeux aussi, quoi. J'aimais bien aimer ça. Moi, ce qui m'intéresse dans les jeux, c'est le rapport qu'on a avec un jeu et le rapport que le jeu a avec le réel, en fait. Donc forcément, la plus grande expérience de jeu que j'ai de souvenir de jeu, c'est le premier Animal Crossing sur DS. Et alors, ça a été merveilleux parce que je me levais, je me couchais avec. C'est-à-dire que c'était ma vie. C'était un bout de ma vie. Bon, c'était mignon, c'était tout petit, mais c'était ma vie quand même. Et donc, j'avais ma petite maison, que je refaisais exactement ma chambre. Et le lendemain matin, je me disais, oh, tiens, je pourrais mettre mon lit là. Et je changeais ma chambre dans le réel pour matcher ma chambre dans Animal Crossing. Enfin, c'était des choses qui étaient assez géniales. J'essayais de trouver dans le réel des objets qu'il y avait dans Animal Crossing et tout. Enfin, c'était, superbe. Et Tom Nook est un arnaqueur absolu.
Mais on va te le dire, on est dans Animal Crossing.
Voilà,
depuis le début,
quand même,
en fait.
Je tiens quand même à utiliser ce moment de public pour dire que Tom Nook est un arnaqueur et que voilà, il a pris beaucoup d'argent. Et je lui en veux beaucoup, c'est pour ça que je ne joue plus à Animal Crossing. Et donc ça, c'était hyper important pour moi, parce que c'était surtout cet acte de me coucher, d'avoir cette ritualisation, ce petit temps pour moi, le matin en me levant dans ma couette avec mon ordi. C'était trop bien. La deuxième expérience que j'ai, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus violente, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer dans les détails vraiment, mais j'ai été avalé par Second Life, moi, pendant 10 ans. Parce que je pouvais vivre là-bas la vie que je ne pouvais pas vivre dans le réel. Et il y avait un peu ce même délire avec la manière dont le virtuel va impacter le réel, sauf que le temps virtuel, c'est pas le temps réel, quoi. Et les choses qu'on peut expérimenter de manière très très rapide, de manière vraiment presque des révélations comme ça, des flashs de révélations dans les mondes virtuels, sont très difficiles à implémenter dans le réel à partir du moment où c'est pas simplement bouger son lit ou acheter une nouvelle plante, quoi. Et je pense que cette perception-là, ce rapport entre temps réel et temps virtuel, il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup de mal parce qu'il a fait du mal à mon corps, en fait, quoi. C'est-à-dire que face à ce gouffre-là, face à ce différentiel-là, le corps, il s'effondre, en fait, littéralement, quoi. Et voilà, ça c'était une période très, très dark de ma vie, quand même.
Ouais. Tu veux dire, quand le jeu te conditionne à apprendre que certaines choses prennent un temps, finalement, parfois très court, alors que dans la vraie vie,
oui, voilà,
c'est différent.
Ça, exactement.
Et ça génère une espèce de décohérence entre notre rapport physique au temps et le rapport qu'on avait dans le virtuel.
Ouais, c'est une simulation. Et alors, dès qu'on commence à croire que la simulation est la réalité, là, on tombe dans un excès de Baudrillard, quoi. C'est de l'obscénité, c'est ce que Baudrillard appelle l'obscénité, quoi. Et là, c'est quand ça devient, la vie devient compliquée, là. Ouais. Et là, le jeu vidéo, le temps dans le jeu vidéo devient vraiment une valeur. Waouh, c'est quelque chose, quoi.
Et donc, justement, pour le coup, pour rebasculer du côté plutôt créateur, comment, dans chacun de vos jeux, vous avez réfléchi à ce rapport que les joueurs allaient avoir avec le temps de votre jeu? Alors, que ça peut être la durée des parties ou des choses comme ça que vous avez pu réfléchir, mais ça peut aussi être le fait de comment vous avez géré, par exemple, sur des jeux narratifs, les différences de temporalité entre le monde réel et le temps dans votre jeu, notamment au niveau de la narration. Je vais prendre l'exemple de Firewatch. Je ne sais pas si tout le monde connaît, et beaucoup de gens connaissent Firewatch ici, on dirait. C'est un, dans Firewatch, il y a des choses qui tout d'un coup sont urgentes ou voilà, mais le jeu ne reprend qu'une fois qu'on a finalement qu'on s'est vraiment mis à suivre la piste en question ou l'indice en question. Il y a une espèce de moment qui se distende en fonction de ce qu'on fait.
Suspendu, oui. Voilà. C'est ce qui se passe aussi dans Witcher d'ailleurs. Witcher, dès le début, on nous dit il faut absolument retrouver Ciri, c'est vite maintenant, sinon c'est la fin du monde. Et au final, on peut passer son temps à aller cueillir des pommes pour le. Enfin, j'exagère un petit peu, mais on va perdre un temps énorme à remplir énormément de quêtes, à essayer d'aller nettoyer tous les points d'interrogation sur la carte et ce genre de choses, alors qu'on est censé, en tout cas au niveau narratif, être. On devrait courir à tout prix, être extrêmement pressé, absolument, en avoir absolument rien à faire de tous ces gens qui ont des problèmes divers et variés. Et au contraire, on prend pourtant le temps parce qu'il faut faire progresser son personnage, parce que le jeu a aussi envie de nous emmener dans des détours et de donner vie à tout cet univers-là. C'est une mécanique qui est extrêmement commune à tous les RPG, qu'on retrouve aussi dans Skyrim, c'est exactement la même chose. Hein, dans tous ces jeux-là, on a toujours dans le scénario au départ une espèce de menace qui va probablement détruire l'univers sous peu. Et pourtant, on passe notre temps à aller chercher le chat de la voisine dans l'arbre et ce genre de choses. C'est vraiment cette histoire de temporalité suspendue. Et qui, parallèlement à ça, est quand même axée sur une autre temporalité qui est celle de cycles, puisque la plupart de ces jeux-là incluent des cycles jour-nuit, qui sont évidemment d'une temporalité qui n'est pas la même que celle du joueur. Les jours passent quand même plus vite que les nôtres, ce qui est heureusement, ça permet de voir un peu plus de choses. Mais du coup, on a à la fois ce passage du temps avec un calendrier. Dans Skyrim, il y a un calendrier, par exemple. On peut vraiment regarder, tiens, il faut que j'attende 3 heures avant que la boutique du gars soit ouverte parce qu'il ouvre qu'à 10 heures, et ainsi de suite. Donc on retrouve des mécaniques qui sont proches de la réalité. On est effectivement presque dans la simulation. Et à côté de ça, on a des licences narratives sur le passage du temps qui créent une autre couche de temporalité. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez particulier et qui est complètement spécifique aux jeux vidéo.
Et donc dans l'écriture, comment vous traitez ça ?
Alors, avant de répondre à ta question, j'ai juste un exemple pour la culture générale qui est assez sympa. J'ai pas de conclusion sur le sujet, mais dans Far Cry 4, si vous ne bougez pas, le temps ne s'écoule pas. C'est-à-dire, si vous ne bougez pas pendant 3 heures... Le soleil va rester fixe dans le ciel. Dès que vous commencez à bouger, à agiter votre calache, ben, le soleil bouge. C'est un parti pris hyper étrange. Je n'ai pas encore compris pourquoi ils ont fait ça, mais il doit y avoir une raison profonde. Sinon, pour répondre et aller dans le sens de Jeanne, pour intéresser les gens, il faut mettre de la granularité dans votre récit. C'est-à-dire que vous pouvez faire comme The Witcher, vous commencez doucement, puis tout d'un coup, vous mettez un coup de pression, puis après, enfin, un peu doucement. Vous pouvez pas aller à 200 à l'heure tout le temps ou être lent tout le temps, sauf si c'est Derek. Et du coup, vous êtes obligé d'être dans ce récit schizophrénique. Attention, le monde s'écroule, mais allez, on va boire un verre. Mais si vous savez quoi, dans la réalité, c'est pareil. Mon propriétaire veut m'expulser à cause de la loi Macron. Bah, je vais quand même au McDo et je discute avec des potes et je suis là aux Utopiales, tu vois. Donc, c'est une side quest, je la prends et je m'éclate. Donc... la vie, c'est ça, tu vois. On a un rapport au temps qui est schizophrénique et il est assez bien rendu dans les jeux vidéo. Voilà. Et également, pour accrocher les... on n'écrit plus comme on écrit au 19e siècle du Jules Verne ou même au 20e siècle. Aujourd'hui, Twitter m'a appris quelque chose. C'est que l'attention span, la marge d'attention des gens est hyper faible. Donc, il faut vraiment... commencer par 3 phrases très fortes, genre aujourd'hui j'ai braqué une banque, et tout de suite j'ai votre attention. Là je sais que vous allez lire la suite et je peux commencer à dire des longues phrases bien jolies. Mais si je commence par dire voilà, il faisait chaud aujourd'hui, j'avais préparé mon uniforme, tout ça pour vous dire à la fin que j'ai braqué une banque, je vous ai perdu. Voilà. Donc c'est dans le temps d'aujourd'hui de raconter les choses comme ça, c'est-à-dire finalement. C'est comme de la dubstep, vous savez, la dubstep, c'est de la musique, puis ça, boum, boum, ça se distord un peu. Ben là, c'est pareil, quand vous écrivez, vous distordez un petit peu le temps pour que les choses les plus importantes, elles vous impriment bien. Je vous capture, dès que vous êtes en train de partir, bah, je vous en remets une couche. Et les professeurs savent très bien ça, d'ailleurs, parce que les élèves pensent à autre chose, puis tout d'un coup, hop, ils les ramènent dans le cours. Voilà. Donc, c'est des astuces de conteur, voilà, tout simplement.
Au-delà de l'astuce de compteur, excuse-moi, je pense qu'il y a aussi l'idée que le jeu vidéo fait du joueur et le personnage central. Il est le moteur de l'histoire. c'est lui qui, par ses actions ou par son inaction, va faire avancer l'histoire. Et l'histoire ne peut pas avancer sans lui. Ce qui est, enfin, il y a eu des jeux qui ont tenté une autre approche, et c'était d'ailleurs très très intéressant, notamment certains vieux RPG. Si on nous parlait d'un événement qui allait avoir lieu, on était invité à y aller et à préparer certaines choses pour y aller. Et si on n'allait pas, ben, il avait lieu quand même. Et on devait gérer à ce moment-là les conséquences du fait qu'on n'ait pas été là. Et c'était super intéressant. Enfin, de mon point de vue, je trouvais ça très très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on a relativement abandonné aujourd'hui dans l'écriture et dans la narration de jeux vidéo, parce qu'on pense qu'il faut toujours que le joueur soit là, qu'il voit tout ce qui se passe. Et c'est presque dommage, parce que finalement, gérer les conséquences de son absence, c'était aussi en soi quelque chose de très intéressant. Alors bien sûr, ça créait deux voix, puisqu'il y avait la voix où on était là et la voix où on n'avait pas été là. Et donc ça demande effectivement beaucoup de ce qu'on appelle le boulot aveugle, enfin celui qu'on ne verra jamais en fait. Mais c'était quand même très très intéressant.
Il faut voir que le jeu vidéo, c'est une industrie qui est dominée par le marketing, pour aller encore dans ton sens. Et en général, un mec du marketing va vous dire, de toute façon, le journaliste, il va jouer les 2h30 à votre jeu, pas plus. Donc il faut que les deux premières heures, elles soient topissimes. Et après, voilà, elles sont moins bien. Donc c'est pour ça qu'on a...
2h30, c'est plus... En général, on dit une heure, hein, carrément.
Voilà, donc on a une heure polish, intense, bien amenée. Et puis après, ça peut partir en quenouille. Ça peut être vraiment très, très, très différent.
Le fait que la première heure des jeux...
Ouais, non, mais enfin, c'est intéressant
justement, parce qu'en fait, nous, en vrai, on essaye de faire autre chose, mais le marketing, effectivement, a tendance à se concentrer uniquement sur cette partie.
C'est intéressant de vous caler dans un fauteuil, de regarder un jeu et puis d'attendre le moment où, ça y est, le marketing les a laissés tomber et le jeu peut-être aborde un rythme normal.
Alors déjà, je voulais dire à quel point j'ai aimé l'expression top piscine. Je vais la garder parce que c'est vraiment top, quoi. Et je voudrais juste dire un tout petit. Vous m'activez les petites neurones là. On est en train d'essayer de créer une grammaire du temps dans la narration, dans les jeux vidéo, en fait. Et c'est intéressant ce que vous avez dit sur le personnage comme étant le moteur principal dans un jeu, etc. Moi, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, et dans le jeu de rôle, c'est top, parce que quand on trouve l'indice comme quoi il y a une cérémonie sacrificielle sur les ports, comme par hasard, hop, c'est ce soir. C'est systématique, quoi. C'est pas dans deux, ça peut être dans deux jours si on est sympa et qu'on a envie de les laisser se préparer, mais c'est toujours là. On l'a jamais loupé vraiment.
Ça aurait été ce soir, quoi. Quelque chose.
Ouais, voilà,
ça aurait été.
C'est anyway, c'est ce soir. Ou alors t'arrives juste au moment où le cambrioleur il s'enfuit par la fenêtre, tu vois, tu l'as vu, tu vois. C'est bon, ça, mais tout ça, ça fait partie d'une forme de grammaire, de la tension narrative, des conventions, etc. Et je peux me tromper, mais de mon expérience, je suis en train de voir que. On commence à parler entre nous déjà de tout ça en tant que narrative designer. Quoi. On commence déjà à essayer de voir si on est capable de comprendre la grammaire globale du truc. Est-ce qu'on est capable de comprendre justement ces changements d'intensité, ces moments où le marketing doit être convaincu par le truc, les moments où on peut laisser le joueur prendre du temps. Et je crois qu'on est en train de construire tout ça, et que, enfin, pour moi, c'est même encore un peu flou, parce que sur chaque projet contient sa propre temporalité, chaque projet contient son propre rapport au réel, et c'est pour moi, c'est difficile de faire une généralité là pour l'instant sur. Alors que la grammaire cinématographique, par exemple, par rapport au temps, via le montage et via l'ellipse au cinéma ou même en bande dessinée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intégré au médium, en fait. C'est déjà beaucoup plus là, on peut déjà beaucoup plus jouer avec, on sait avec quel objet on travaille. En jeu vidéo, c'est quand même déjà, c'est encore un peu flou pour moi.
Ça dépend typiquement de chacune des productions, en fait. De toute façon, la façon dont ça joue
ouais,
avec
ouais,
le
mais
temps.
Quand même, enfin, je veux dire, l'ellipse en bande dessinée ou le montage en cinéma, enfin, même s'il est sculpté différemment, etc., on sait qu'on peut utiliser ça pour rythmer notre grammaire du temps, quoi. C'est, nous, quels sont nos outils réels? Qu'est-ce que c'est qu'une véritable ellipse dans un jeu vidéo, en fait? La question de l'ellipse dans le temps réel, quoi. C'est très intéressant tout ça, quoi.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, un truc de ouf dans le jeu vidéo qui est absolument pas dans aucun autre support. C'est il y a des sauvegardes dans le jeu vidéo. Et moi je viens d'un, j'ai commencé à jouer quand il y avait pas de sauvegarde. Et quand les sauvegardes sont arrivées, je trouvais ça débile. J'ai dit mais ils sont cons, quoi. Ils veulent qu'on fasse le jeu en petits bouts. Et moi c'était complètement normal de recommencer le jeu depuis le début, de le faire à la fin comme un bonhomme, tu vois. Et en fait c'est génial les sauvegardes, mais par contre c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité du tout, et c'est très différent. Et par rapport au fait à ce que tu as dit, c'est-à-dire il y a un événement qui se passe extérieur à vous, vous sauvegardez le jeu, vous le loupez, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le recharger, le jeu. Donc il y a ce côté perfection. Mais ça a été, l'arrivée de la sauvegarde, c'était quelque chose de spécial dans le monde du jeu vidéo. C'était fin des années 80. Et je me souviens de Daggerfall, donc jeu qui arrivait juste avant Morrowind. Et dans Daggerfall, ils essayaient de vous décontracter sur le fait que ça tourne mal. C'est-à-dire que vous êtes, dans le manuel, il y a marqué, bon, vous avez volé, vous êtes fait prendre, vous êtes en prison, bah, acceptez-le, purgez votre peine de prison, vous allez avoir un malus, bah, continuez, ça fait partie de votre aventure. Perdre ou avoir un écueil, ça fait partie de votre aventure. Ne faites, soyez pas des accros de la sauvegarde. J'en suis devenu, hein, c'est-à-dire... juste avant quelque chose d'important, je sauvegarde, je mets double de copies de sauvegarde, tout ça.
Mais ah. c'était différent, effectivement. Il y avait, à l'époque, et ça fait partie des jeux dont je parlais tout à l'heure, avec des événements qui étaient prévus. Historiquement, ça devait arriver au bout de, à telle date, comme il y a effectivement des calendriers, il y en avait déjà un dans Daggerfall. Que le joueur soit là ou pas, se trouve, il était effectivement en prison ou à faire autre chose, et ben, l'événement allait avoir lieu. Et c'était vachement intéressant parce que ça donnait aussi de la réalité à ces univers. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un univers dont les grands événements historiques sont complètement suspendus au décision du joueur à ce qu'il fait, à ce qu'il a prévu, c'est un univers qui tourne, quoi qu'il arrive. Et ça avait l'intérêt, notamment dans tous les jeux qu'on appelle sandbox ou monde ouvert, etc., et Daggerfall en était un, ça donnait effectivement une forme de crédibilité à tout ça, et ça donnait aussi la possibilité et l'envie éventuellement de refaire le jeu complètement en se disant, bah, tiens, cette fois-ci, cet événement-là, j'ai vraiment envie d'y être, et du coup, je m'arrangerai pour pouvoir y aller. Et c'était quelque chose, c'était une autre forme finalement de jeu, où on s'attachait plus à la cohérence de l'univers, et où le temps était vraiment une dimension à part entière. Dans l'exploration de ce monde, plutôt que des jeux qui sont suspendus à la narration.
Il faut voir que il y a eu une scène indé dans les années 90. Le jeu s'est ultra industrialisé dans les années 2000, World of Warcraft. Les indés n'existaient pas à l'époque. Et enfin, ils ont disparu dans les années 2000. Et il y a eu une fascination pour le cinéma dans le jeu vidéo. On arrêtait de faire de la musique interactive. On prenait des Hans Zimmer, on mettait du MP3, on mettait des bandes-sons de films. Et il y a eu cette volonté hyper démiurgique des marketeurs, des chefs de production de dire « Mon jeu vidéo, ce sera un film. » Et aujourd'hui, c'est impensable de faire un Assassin's Creed donc hyper produit dans lequel le héros n'est pas au centre quasiment de tout l'univers. Tu vois. Et il n'y a plus ce sandbox. Voilà. C'est aussi une vision américaine. De contrôle total de la production, mais qui impose aussi une vision et qu'on a perdu en jeu. J'espère que ça reviendra dans 6-7 ans.
Alors, voilà. dans le jeu indépendant, c'est très intéressant ce que tu dis. Dans le jeu indépendant, il y a eu un manifeste qui a été créé, je ne sais plus, il y a peut-être une dizaine d'années par les gens de Tales of Tales, qui sont un peu des parrains du milieu en écran. Et ils ont créé un manifeste du temps réel, en fait. Le Real Time Manifesto, qui est un manifeste que je vous invite à lire, qui est en ligne, qui est. Par ailleurs, un peu pompeux parfois, hein, mais Tales of Tales, Michael Samin, quelqu'un de pompeux lui-même le dit, mais ça fait partie de sa personne en fait. Mais ils sont en train d'essayer justement d'amener cette perception très européenne quelque part. C'est un peu. Enfin, moi je me souviens, j'avais une discussion avec Michael et on en a parlé. Il me disait, moi j'aimerais bien qu'on essaye d'envisager ce que ça pourrait être de faire du Godard en jeu vidéo. Alors, je dis pas qu'il faut faire du Godard en jeu vidéo. J'aime pas ces genres d'analogies. C'est pas du tout. Mais ce qu'il avait envie d'amener, c'était quelle est la rupture avec le cinéma américain que la nouvelle vague a amené d'une certaine manière. Quelles sont ces choses sur lesquelles on peut travailler dans le jeu vidéo qui pourraient nous amener à avoir une spécificité typiquement européenne dans la narration et dans le design en fait quelque part.
On enlève les Kalachnikovs.
Ouais, bah déjà de base. Voilà. Remplacés par des cerfs. Dans la forêt, tu vois, déjà c'est cool. Non, mais c'est super intéressant ça, et ça passe par le temps réel pour eux en tout cas. Ça passe par le temps réel, ça passe par le fait de ne pas tricher. Je voulais rappeler aussi un truc, une expérience de jeu, mais absolument détestable que j'avais fait. C'était le premier Deus Ex, je crois, où je pouvais sauvegarder juste avant les trois fins différentes, quoi. C'était complètement ridicule, quoi. C'était genre, ouais, il y a trois fins différentes en fonction de ce que tu fais. Les Illuminati gagnent, ou les Templiers gagnent, ou alors machin. Ah ouais, ben, tu sais quoi, ben, je vais sauvegarder là, et puis je vais faire la fin une première fois, fin une deuxième fois, fin une troisième fois, et youhou. Alors que, techniquement, ce qu'on devrait envisager, c'est de dire que toutes les actions qu'on a fait pendant tout le jeu, tout se répercute pour avoir une fin qui correspond à notre trajectoire. Sauf que c'est 20 heures de jeu. Est-ce que tout le monde va vraiment refaire le jeu 20
fois ? Il faut avoir une éthique de la sauvegarde, peut-être.
Mais absolument. Il faut avoir une éthique de la sauvegarde. Moi, il y a des endroits où je m'empêche de sauvegarder. D'ailleurs, il y a des gens qui utilisent des frises de sauvegarde en combat ou dans des moments spéciaux. Il y a même des designers qui utilisent et disent « Attention, là, vous allez passer dans une zone importante, vous devriez sauvegarder maintenant. Ouais. » Okay, dans le jeu que je suis en train de faire à Montréal en ce moment, on essaie d'utiliser, qui s'appelle The Inner Friend, qui est vraiment une abstraction, quoi. On essaye d'utiliser la sauvegarde comme un moyen narratif où chaque fois qu'on boot la sauvegarde nous dit quelque chose sur le jeu. Et je vais finir parce que c'est toutes les idées que vous avez pendant que vous parliez, j'ai plein d'idées et compagnie. Donc l'idée, je reviens à Animal Crossing, c'est que quand même Animal Crossing, on peut tricher avec le temps. Même s'il est mappé sur notre temps réel, on peut tricher, on peut changer l'horloge pour pouvoir avoir accès à la petite boutique, pour pouvoir avoir la petite jupe et tout, c'est trop cool. Bon, Mais si jamais on a triché et qu'on reboot et qu'on remet l'horloge et qu'on reboot, on se retrouve avec une taupe qui débarque, qui sort de terre et qui vous pourrit la gueule pendant des heures. Ça dure 10 minutes et il faut pas te sauver la souris, il faut pas, tu vois, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, faut pas toucher la. Et c'est génial parce qu'on le refait plus. Moi j'étais terrifié la première fois que je l'ai sorti, j'ai dit oh là là, moi, je veux plus me faire engueuler comme ça quoi. Et elle arrête pas de parler, elle arrête pas de parler, un peu comme moi.
Mais le concept de la sauvegarde vous est super familier. Moi je l'ai vécu vraiment comme un traumatisme et c'est effectivement c'est Dickien quoi, c'est Philippe K. Dick. Imaginez, vous pouvez sauvegarder. Et il y a un autre aspect du jeu vidéo dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a le jeu vidéo temps réel. Vous demandez à avancer, le bonhomme il avance, vous voyez vraiment animer tout ça. Même si d'ailleurs c'est une illusion de continuité parce que les jeux vidéo ils sont à on va dire 30 frames par seconde, mais en gros c'est il se passe 30 actions par seconde, mais c'est des actions qui sont discrètes au sens mathématique. Et moi personnellement je suis spécialisé dans les jeux au tour par tour, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à l'écran, vous pouvez attendre 2000 ans et bien réfléchir à votre action et faire l'action en question. Et donc là effectivement il y a un rapport au temps qui est enfin, un peu comme ces joueurs d'échecs qui sont devant un problème et qui vont prendre une semaine de vacances et puis ils vont dire bon je vais faire ce coup là, on peut faire ça. Il y a toute une typologie de jeux qui s'apparente à ça. Le tour par tour c'est très étrange et il y a des gens aussi qui donc par exemple il y a le jeu de rôle à l'occidental, on attaque des gens, mais il y a le jeu de rôle japonais, c'est super bizarre. Je veux dire, au tour par tour, le tour par tour japonais, vous avez trois personnages qui sont en face, c'est un peu l'équivalent de l'opéra. Hein. C'est-à-dire, vous avez des personnages dans des tenues outrancières, vous avez de la grosse musique métal ou symphonique derrière, vous avez un ennemi qui se toise de haut avec des grandes mimiques, et puis il s'envoie des attaques à distance. Moi, j'ai l'impression de voir Carmen, c'est fantastique, mais c'est complètement. Alien, quoi. Qui a imaginé ça? C'est-à-dire, le temps est complètement déstructuré pendant 3 minutes, quoi.
Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est que autant les combats sont tour par tour, ou semi-tour par tour, parce que parfois, il y a quand même un certain temps pour agir, autant le reste du jeu se déroule en temps réel. Complètement. Non, mais justement, on peut, dans certains jeux, avoir plusieurs temporalités côte à côte. C'est aussi valable dans des jeux comme dans des jeux de stratégie pure, qui ne sont pas forcément de jeux de rôle, où on va avoir des moments où on est en temps réel et des moments où, au contraire, paf, on passe en un temps qui est découpé, haché, morcelé, pour permettre les coups des uns et des autres avec une gestion tour par tour.
Mais la dubstep, j'en reparle d'abord la deuxième fois, je ne suis pas fan de dubstep, mais ça a une influence folle. Je veux dire, aujourd'hui, vous jouez un QTE, c'est-à-dire en gros, vous avez un ennemi avec une hache qui vous saute dessus. Le temps va ralentir, voire stopper. Il va stopper 2 secondes et vous allez pouvoir faire une action pendant 2 secondes. Si vous attendez trop tard, il va se passer quelque chose de négatif pour vous. Et ça, c'est des rythmes qui étaient très années 2000. Voilà, dans les années 2005-2006, la dubstep arrive. On a eu des jeux comme ça, de QTE. Et aujourd'hui, c'est un peu ringard. Faut pas trop le faire. Mais
même avant, quand tu prends Dragon's Lair, le Dragon's Lair en arcade, où tu avais des flashs et il fallait réagir exactement au bon moment pour être sûr que tu évitais le dragon ou t'évitais le machin. Et c'était considéré comme étant une horreur de gameplay, d'ailleurs. C'était considéré comme étant, même les QTE, encore aujourd'hui, ils sont débattus énormément. Est-ce que c'est vraiment du gameplay? Est-ce que c'est vraiment quelque chose?
C'est très bien quand on n'a jamais joué à un jeu vidéo.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais ça peut être très intéressant dans un côté avec un côté narratif aussi. C'est-à-dire que si c'est vraiment amené dans un espèce de contexte comme ça environnemental où finalement il faut appeler quelqu'un, il faut attendre et puis il peut y avoir plusieurs options. Enfin, ça, c'est pas forcément mauvais dans tous les cas, mais c'est vrai qu'en termes de gameplay pur, des fois c'est pénible à vivre, quoi. Et c'est surtout une facilité, quoi. C'est très facile. Je sais pas ce que t'en penses, William, mais.
Si, bah il y en a encore. Après, ça s'appelle plus QTE. On essaye de leur mettre des jolis noms autour, mais il y a des grands créateurs français qui en font encore. Ce sont d'ailleurs les Godards du jeu vidéo.
Nous aimerions faire ces chiffres de vente, donc on l'aime bien. Hein.
Ah bah oui, carrément. Et en plus, les jeux sont bien, quand même. Voilà. Par contre, je voulais dire un truc, c'est qu'il y a une chose qu'on gère mal en tant que développeur, j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, d'un point de vue du temps, c'est qu'on ne pense pas au temps que les gens vont passer entre leur session de jeu et que probablement ils vont jouer une heure à notre jeu, ils vont bien l'aimer, mais après ils vont passer à autre chose et ils reviendront un an plus tard ou un an et demi plus tard dans leur backlog Steam, ils verront qu'ils ont joué un peu à ce jeu. Et j'ai l'impression qu'on le gère mal, ce truc-là, c'est-à-dire que on suppose que le joueur a toujours en tête les événements qui se sont passés lors de sa dernière session de jeu, sauf qu'en fait il est complètement passé à autre chose et on va très rarement, enfin à de rares exceptions, lui rappeler ce qui s'est passé et lui rappeler où il en est et quels sont les contrôles exactement de ce jeu-là. Et voilà, donc je voulais vous...
C'est vrai que le temps entre les jeux est important, parce que d'expérience, quand je commence certaines parties de certains jeux qui prennent un peu de temps, qui demandent un peu de cerveau, si je le reprends trop longtemps après, effectivement, je préfère refaire une partie que de reprendre celle qui est entamée, parce qu'effectivement, c'est plus frais dans ma tête. Donc oui, les reminders façon série télé, ça pourrait être une idée.
C'est quelque chose pourtant qui est fait dans les RPG narratifs, par exemple, dans tous les BioWare maintenant. Alors, ce n'était pas le cas avant, mais quand on relance une partie, il nous rappelle là où on s'en était arrêté. Alors, il ne rappelle pas tous les détails, parce qu'il y a des journaux de quête pour ça, qui servent à ça, mais au moins par rapport à la quête principale, il nous rappelle à peu près où on en était. Dans Witcher, il le faisait aussi, d'ailleurs.
Dans Batman Arkham Asylum, c'est grand chargement.
Aussi, oui. Donc en général, c'est souvent le chargement de lancement qui est utilisé. Il nous rappelle à peu près où on en était, etc. Après, par contre, c'est vrai que sur les contrôles, on n'a pas aussi de attention, peut-être relancer un tutoriel quand ça faisait vraiment longtemps qu'on n'a pas joué pour se rappeler toutes les actions du jeu. Ça, c'est vrai.
Il faut voir que le temps de jeu ne se limite pas au temps auquel vous jouez au jeu. Parce que moi, si vous pensez à mon jeu que quand vous jouez à mon jeu, c'est un peu un échec. Il faut vraiment que vous vous couchiez le soir en disant soit « Ah, j'aimerais bien être sur cette plage qui est super cool, que j'ai vu dans le jeu », ou au contraire « J'ai eu ce problème-là, comment je vais le résoudre ?» Et vous levez le matin et dites « Ah, mais je vais faire comme ça !» Et en fait, le jeu vidéo, il se joue si possible, le plus possible, hors du jeu. Et quand on arrive à faire ça, c'est topissime, on est super content. Voilà.
Et donc du coup, là, sur la création de jeu, William, par exemple, là, sur les jeux, soit sur le jeu sur lequel tu travailles, soit sur Seasons peut-être, mais... Sur le principe, et est-ce que le temps est un vrai sujet? Est-ce que tu réfléchis à comment tu vas gérer justement le temps de jeu? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu te dis, tiens, je fais un jeu temps réel ou je fais un jeu tour par tour ou machin? Ou est-ce que tu réfléchis plus que ça sur les mécaniques que tu vas pouvoir faire et les différents temps que tu vas pouvoir superposer dans ton jeu?
Ouais, c'est en suivant d'autres conférences ces jours-ci, là, je me suis en effet rendu compte que la plupart du temps, dans le jeu vidéo, le temps est figé. Et il attend juste que le joueur fasse quelque chose pour avancer. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que c'est ce qu'on fait dans nos jeux. On essaye de ne pas presser le joueur. On essaye de lui donner le temps de réfléchir. Nos tout premiers jeux, c'était des puzzles. Et au début, on avait plateforme et puzzle mélangés. Donc, il fallait avoir une bonne exécution avec la manette et en même temps réfléchir beaucoup. Et on a complètement enlevé cette histoire d'exécution et en fait de... par exemple, on essayait de faire des courses-poursuites, tu vois, de temps en temps, c'est pas un QTE, mais ça s'apparente finalement à un QTE parce qu'on demande aux joueurs d'aller vite dans une séquence, voilà, alors qu'on est dans un puzzle game. Et ça, on l'a complètement retiré. Parce que le but, c'était de. Et comme tu le dis très bien, Fibre, en fait, je préfère que le joueur il passe du temps à regarder son écran figé et que le joueur se passe dans sa tête. Plutôt que qu'il fasse des trucs avec sa souris. J'ai envie que le jeu il se passe complètement à l'intérieur du joueur, voilà, et pas sur l'écran. Ça je m'en fiche. Après on fait en sorte que ce soit joli pour les trailers et tout ça, mais en vrai c'est pas ça qui importe. C'est vraiment le temps qui est passé dans le cerveau à triturer les données, quoi, les informations. Donc il y a un truc auquel on pense quand même quand on fait nos jeux, c'est qu'on essaye de faire en sorte que le joueur ne perde pas son temps à y jouer. On ne met pas de remplissage le moins possible. Tant pis si le jeu fait 6 heures. Je sais que pendant très longtemps, la durée d'un jeu faisait sa qualité. Voilà. Mais plus maintenant.
En tout cas, c'était un argument de vente.
Ouais, maintenant c'est plus le cas. Et donc, du coup,
il faut que le jeu fasse au moins 2 heures, sinon les personnes se font rembourser sur Steam. Voilà.
Bon, alors ça, c'est une réalité économique.
Si le jeu fait 2h30, on est bien. Voilà.
Voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'on se dit à chaque fois que 6 heures, c'est très bien, c'est parfait pour nous. Voilà.
Moi, il y a deux choses que je voudrais dire. Une chose générale et une chose plus personnelle. La première chose, c'est en général, c'est qu'il va falloir qu'on commence à se poser sérieusement des questions sur la manière dont les gens jouent au jeu. Parce que sinon, il va y avoir des gens qui ne connaissent rien au jeu qui vont vouloir nous dire comment est-ce que les gens doivent jouer au jeu. Évidemment, là, on va parler d'addiction, de contrôle du temps parental, de ces choses comme ça. C'est hyper important. On ne se rend pas compte à quel point c'est la responsabilité des designers aujourd'hui de comprendre le rapport entre les joueurs et le jeu en termes de temps. Quoi. Combien de temps on va jouer? Est-ce qu'on peut encore se permettre de laisser quelqu'un... Je sais que c'est polémique ce que je dis. Ce n'est pas forcément quelque chose auquel je crois, mais c'est des idées. On en a discuté un peu avec Jeanne à midi en plus. C'est des idées qui me travaillent un peu. Quoi. Est-ce qu'on peut vraiment laisser encore l'idée que on veut enfermer des gens dans nos univers, que le game design, c'est que cet outil qui est extrêmement précieux, extrêmement pouvoir powerful, puissant, pour ramener les gens en permanence au même endroit, avec cette espèce de boucle de renforcement, là, de dopamine, tout ce qu'on veut, quoi. Et de ce point de vue-là, pour finir là, sur ce point-là, j'ai l'impression que la violence, en tout cas telle que nous on la conçoit, elle induit un rapport au temps qui est pour moi pas le bon, en tout cas. Je suis pas contre la violence dans l'absolu dans les jeux vidéo. Je pense que la violence dans toute forme d'art est un très beau sujet. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du temps et au niveau de cette boucle de renforcement, justement, ça amène une espèce de truc un peu vicieux, en fait, dans cette histoire de... C'est ce que j'appelle de la corruption, de la perversité. C'est-à-dire cette espèce de moment où ça dérape et on n'est plus du tout dans un rapport constructif avec entre l'utilisateur et un programme, et même nous. On est dans quelque chose qui est un peu pervers et qui finit par faire de l'argent, en fait, quoi, tout simplement. Et ça, moi, j'y arrive pas. Je préfère essayer de comprendre les jeux en termes de respiration, en termes de renforcement, plutôt que d'essayer de se tuer et d'être dans le conflit. Est-ce qu'on pourrait pas essayer dans le prendre soin des choses et d'être ami avec les choses, d'être dans le positif? Moi, je suis quelqu'un de... Moi, j'en ai marre de ce qui se passe en ce moment dans la vision qu'on a du monde à travers les jeux, à travers le cinéma, à travers... J'en peux plus, là, je suis en train de péter un câble. Et tout ça, ça m'horrifie un peu, quoi. Et je crois qu'on doit absolument se poser la question, nous, entre nous aussi, de discuter de tout ça et de dire quand est-ce qu'on va réussir enfin à articuler quelque chose de cohérent là-dessus sans se laisser envahir par le marché, par l'esprit reptilien, quoi, qui va tout prendre finalement, qui va tout emporter, parce que c'est une prophétie qui s'autoréalise, le monde est foutu, alors foutons le monde en l'air, quoi. Tu vois ? Excusez-moi, je me suis trompé de meeting, je devais être au port ce soir avec les syndicalistes, et puis voilà, finalement je suis là, quoi.
Du coup, je vais dire quelque chose d'horrible juste après, c'est que il y a certaines personnes qui font des jeux vidéo pour de l'argent, dont moi par exemple, La question, c'est comment vendre des jeux. Bon, il faut qu'ils soient bien, mais ce n'est pas forcément une bonne technique. Une bonne technique, c'est d'avoir des bons prescripteurs. Avant, c'était la presse. À un moment, c'était les YouTubeurs. Et maintenant, c'est les Twitchers. Donc, vous allez sur Twitch, vous regardez des jeux. Vous dites, ah, celui-là est bien, vous l'achetez. C'est le grand prescripteur Twitch. Et aujourd'hui, pour que votre jeu soit joué sur Twitch, et surtout, il passe sur Twitch, eh ben, pas n'importe quel jeu peut passer sur Twitch. Voilà. Et nous, quand on envoie notre jeu à des Twitchers, on envoie quasiment une lettre de motivation. Et on leur dit, bah voilà, notre jeu, il est en tour par tour. Donc, si votre audience il est à la campagne avec une connexion minable, bah, ça va passer. C'est un jeu qui est en tour par tour, donc vous allez pouvoir vous poser. Et vous tournez vers votre audience et dites, bah, je prends la porte bleue ou la porte rouge? Et du coup, les gens vont être impliqués dans la relation avec le Twitcher et ça va valoriser tout le monde. Et en plus, c'est des jeux un petit peu lents, on peut aussi, nous, les créateurs, arriver sur le chat Twitch, offrir des jeux, c'est la fête, animer tout ça. Et du coup, le rythme du jeu est conditionné par la façon dont on va gérer les prescripteurs. Aujourd'hui, c'est les Twitchers, demain, ce sera peut-être sur Snapchat ou je ne sais pas quoi. Et donc, effectivement, il est conditionné par le fait, je suis désolé, de vendre des jeux. Voilà.
Ah mais ce que je disais, je pense que j'ai envie de quand même de te soutenir un petit peu.
Non, mais je veux juste dire qu'il est possible de faire des jeux qui se vendent sans massacrer à tour de bras des trucs ou en établissant un rapport au temps qui ne soit peut-être pas le même, quoi. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas vendre des jeux, mais il est peut-être possible d'envisager... d'avancer sur le sujet.
Nous sommes des gens de qualité, nous faisons des jeux de qualité.
Non, mais il n'y a que des gens bien autour de cette table. Voilà, en plus, des gens qui font des jeux bien et qui ne font pas des jeux de... Mais je ne parlais pas de nous, je parlais de ce qui se passe en général. Excuse-moi.
Non, puis en plus, je pense que de ce que tu disais, par contre, et sur lequel il va falloir tous qu'on réfléchisse et qu'on puisse arriver avec des débuts de réponse, au moins, c'est qu'effectivement, au niveau politique, les choses sont en train de changer. Il y a une volonté de contrôle qui s'insinue de plus en plus dans notre média et qui, hélas, pour l'instant, est véhiculée par des gens qui n'y connaissent absolument rien et qui y arrivent en disant... Alors, ils ont toujours en tête les mêmes vieilles problématiques de le jeu, c'est violent, le jeu, ça prend trop de temps, les enfants, ils passent trop de temps sur le jeu vidéo au lieu d'aller jouer au foot, comme si avant, ils passaient pas plus de temps sur la télévision. Enfin, peu importe, mais... Tout ça, tous ces messages-là sont encore complètement larvés dans la tête des politiques. Et c'est avec ces idées-là, qui sont des clichés et qui sont, je l'espère, complètement faux, mais c'est hélas avec ces clichés-là, qui vont légiférer sur les nouveaux PJ, puisque c'est alors le PJ, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les petits logos qui vous disent que ce jeu est conseillé aux moins de 13, enfin plus de 13 en général, plus de 16, plus de 18, etc. Donc il y a des discussions en ce moment au niveau de l'Europe et en France sur de nouvelles réglementations, avec éventuellement, comme aux États-Unis, une interdiction complète de vente, alors que pour l'instant c'est juste un conseil, mais là on parle d'interdiction réelle. On parle aussi éventuellement d'avoir des bloqueurs installés pour limiter le temps de jeu, et pas seulement des enfants, et donc plus d'un contrôle parental, mais un contrôle d'État. Enfin, on arrive sur quelque chose qui, moi, me terrifie, et me met en plus extrêmement en colère. Et il est certain, et je rejoins complètement Dave là-dessus, qu'il faut que nous, les professionnels, on s'empare nous-mêmes du sujet, sinon c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui vont décider à notre place, et ça, c'est, pour moi, c'est juste hors de question.
Très bien. Je vois qu'il est déjà moins 10. On va peut-être s'adresser maintenant au public, si vous avez des questions sur le sujet. Voilà, déjà des mains se lèvent. Il y a un micro qui arrive. Il y en a partout. Le micro là. Ouais, ben, c'est bon, le micro a commencé sa course.
Oui, bonjour. J'avais une question en fait liée à la technique en fait et le rapport avec le temps. Si je prends par exemple EVE Online, ils ont eu des problèmes à la base technique par rapport liés à la surcharge des serveurs. Et pour répondre à ces problèmes-là, ils ont en fait, dans le cas d'une grande bataille qui amenait énormément de joueurs, ralentir le temps pour être capable d'absorber justement toutes les commandes ordonnées par les joueurs. Est-ce que justement le temps et la façon de jouer avec ne serait pas aussi une solution pour répondre à la problématique justement de la technique? On peut voir aussi l'évolution des jeux vidéo depuis leur début où il y avait beaucoup de tour par tour et maintenant le temps réel est de plus en plus présent, et voir en fait justement le temps est-il vraiment en fait lié à l'évolution du jeu vidéo au niveau de la technique?
Il y a des gens qui utilisent du lag dans EVE Online pour pouvoir réussir à avoir certains objectifs, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont se servir littéralement de l'intervalle entre le serveur et le client pour pouvoir être sûr de dire « Mais attends, mais là, si je me positionne bien, là, ça va marcher. » Et ça marche, mais c'est de l'exploit. Mais le jeu vidéo, c'est la technique, malheureusement. Pour l'instant, ça l'est et ça le sera peut-être toujours. Donc je crois que là, on touche quelque chose d'hyper fort, quand même.
Pour répondre à ta question... Que ton jeu soit en temps réel et en tour par tour, c'est des choix de design très importants qui ne doivent pas être dominés par la technique. Tout doit avoir un sens. Si tu fais un jeu sur la boulangerie, il faut que tout ton design, toutes tes règles, tous tes principes, et à commencer par est-ce que c'est du temps réel ou du tour par tour, doit être pris en compte par le design et doit servir le sens de ton jeu. Ça ne doit pas être soumis à la technique. Et là, c'est un cas particulier, extrêmement particulier, dans un univers très particulier et avec des règles particulières.
Et après, il est vrai aussi que certaines limitations techniques peuvent être intégrées comme des... les contraintes techniques peuvent être intégrées dès le départ dans le design, et c'est d'ailleurs souvent le cas. Quand on conçoit pas un jeu on concevait pas un jeu de la même manière sur Game Boy Color, je l'ai fait il y a fort, fort longtemps, qu'on ne le fait aujourd'hui sur PS4. Et c'est la contrainte technique, et du coup, effectivement, celle qui peut empêcher un certain nombre de joueurs d'être au même temps, au même moment, avec une temporalité lisse, peut être du coup conçue et intégrée complètement dans le design, au point effectivement de se dire on va ralentir le temps pour permettre ce genre de choses. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est que tout doit être pensé dès le départ, et c'est pas un accident de parcours, c'est pas un heureux hasard, c'est quelque chose qui doit être pensé dès le début.
Oui, un bon développeur, il va pas demander comment on fait les choses, il va demander pourquoi on fait les choses, en fait, ça. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que la contrainte technique est une bonne chose, en fait. Moi, j'adore ça, personnellement. Et je trouve que c'est bien aussi quand on travaille en collaboration, parce que souvent, on a l'impression que les programmeurs, c'est un peu la dernière roue du carrosse, qu'il y a cette espèce de truc sur le design, le designer, les penseurs, les machins, les producteurs. Ouais, non, en fait, non, les programmeurs, ils font le jeu aussi. Ils ont un ego très fort aussi, avec lequel il faut travailler. C'est aussi des créateurs à part entière. Ils ne sont pas simplement là en soutien. Ce n'est pas une attaque ou quoi que ce soit. C'est juste essayer de raffiner un peu le truc. Ils ne sont pas non plus là. Ils sont là pour exprimer aussi leur vision du temps, Il y a le temps du design et le temps du code aussi, c'est pas la même chose. Il faut que les deux travaillent ensemble, et c'est pas facile de les faire travailler ensemble non plus, Ouais, je sais pas.
Bonjour. Si vous deviez nous conseiller chacun un seul jeu qui aurait une mécanique autour du temps intéressante à vos yeux,
à part Braid,
à part Braid,
bah tu l'as dit, Dave, tout à l'heure, Animal Crossing pour moi, parce que il y a rien de mieux que de devoir allumer sa console le samedi soir pour aller voir le concert de Keke dans le jeu, et c'est que entre 20h et minuit, quoi, le samedi, voilà. Donc ça, c'est super. Et le dimanche matin, il y a Porcella qui vient vendre des navets, voilà, donc t'es obligé le dimanche matin de te réveiller. Tu peux pas faire la grasse matinée si tu veux, si tu veux jouer à la bourse dans Animal Crossing. Donc ouais, pour moi ce sera Animal Crossing.
Life is Strange, parce qu'on va quand même parler un peu de nos copains français, pour le jeu qui l'amène sur, enfin, où le fait de pouvoir remonter dans le temps et modifier des événements amène quelque chose de différent. Et aussi pour ce que ça représente, c'est un jeu narratif par épisode, donc là aussi avec une gestion aussi du temps de jeu, chaque épisode faisait à peu près 2 heures, hein, de mémoire, mais il fallait après attendre 3 mois, 4 mois pour avoir la suite. C'était vraiment quelque chose de différent et qui a eu beaucoup de succès, tant mieux pour eux, et vraiment oui, qui a amené, je pense, un nouveau point de vue, de nouveaux usages, de nouvelles mécaniques, je pense, du coup on fait de ce jeu vraiment quelque chose d'intéressant, qu'on aime l'histoire ou pas. Enfin,
je suis désolé, je vais citer une référence hyper obscure, mais c'est un jeu qui s'appelle Shrapnel de Adam Kadre, c'est un jeu textuel. Dans ce jeu, vous avez des obstacles insurmontables, par exemple, vous devez rentrer dans une maison, il y a des chiens devant qui sont affamés, et si vous avancez devant les chiens, ils vous tuent, enfin, ils vous mangent. Et vous pouvez recommencer le jeu, et comme les chiens, ils vous ont mangé avant, et ben, ils sont repus, et vous pouvez avancer, et là, il y a des pièges à loups, et ainsi de suite, vous comprenez le système. Donc voilà, c'est un jeu expérimental sur la boucle,
mais retry, en fait.
La boucle dans un univers persistant, donc c'est un petit peu compliqué. C'est très SF, donc ça colle bien.
Day of the Tentacle, qui est pour moi un chef-d'œuvre intergalactique. Et moi, j'ai jamais autant ri de ma vie que l'histoire de pommes, de pommiers de Washington. Là, moi, ça m'a. Et c'était une mécanique géniale, c'est-à-dire faire dans le passé ou dans le futur des trucs avec les drapeaux et tout. Enfin, ça partait dans tous les sens. C'était super et c'était une utilisation du Scum Engine absolument brillante, quoi. Ouais, ouais, c'est un jeu que j'adore, quoi. C'est très beau, c'est narratif aussi, donc tant mieux, quoi. Go go, quoi. Il y a aussi Trinity de Brian Moriarty, je crois, en textuel.
Tout à fait.
Très très beau jeu,
très belle
aussi.
Référence.
Très beau jeu sur le temps aussi, ou même sur le temps warpé. Il y a même, on se retrouve à un moment donné dans une espèce de nœud gordien comme ça, à travers plusieurs dimensions. Enfin, c'est super intéressant. C'est très en textuel. En général, il y a des choses très jolies. Comment il s'appelle, A Mind Forever Voyaging aussi.
Oh là là, c'est feu d'artifice ce soir. Oh là là, putain, quelle émotion d'entendre ça. Je croyais qu'on avait oublié ces jeux, mais c'est fantastique. Voilà, fantastique.
Ouais, non, on les a pas oubliés. Ils sont très beaux. Ouais, regardez ça, c'est tous les gens Infocom, absolument magnifiques. Mais bon, il faut lire, quoi. Donc,
ouais, en anglais en plus.
Notre question. Le micro est quelque part.
Là. Est-ce que c'est vrai que dans les jeux vidéo, selon l'heure où il peut y avoir des contenus différents, par exemple la nuit. Par exemple, si on prend certaines œuvres, mais il n'y a pas le même contenu d'ennemis, tout ça la nuit que le jour. Si c'est un peu différent, si ça prend en compte la réalité, bah, ça veut dire que dans certains jeux, bah, les ennemis, il y en aura certains qui seront que la nuit, d'autres le jour selon l'heure du jeu. Donc ça explique une différence du contenu, en fait. Surtout si c'est un contenu riche, il ne faut pas... En fait, s'il y a des ennemis qui apparaissent la nuit, c'est pour plus expliquer les différences qu'il y a avec le jour.
La réponse est oui. Il y a des jeux qui, suivant l'heure qu'il est, ont du contenu et des réactions différentes, même la date, évidemment. Alors, tout le monde a son exemple. Vous en avez, non ?
Oui, il y en a plein. Il y a deux choses différentes. Il y a effectivement les jeux qui vont prendre en compte l'horloge de l'ordinateur et effectivement proposer un contenu différent. Et les jeux qui ont intégré dans leur simulation, et où là, pour le coup, on est vraiment plus dans la simulation, le fait que la nuit, les saisons tournent, que effectivement la nuit, certaines créatures vont sortir alors que d'autres vont rentrer, que les gens vont rentrer se coucher aussi. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont...
Il y a un million d'exemples. Il y en a un qui me plaît, je trouve très poétique, dans Monkey Island 3, il y a un village avec une horloge, et quand il est 3h dans la vie réelle, l'horloge sonne 3 coups, et je trouvais ça sympa. Voilà, c'était mignon.
D'autres questions? Une question là?
Moi, je me demandais si le rapport au temps dans les jeux vidéo commençait pas à changer vers le rapport qu'on a avec les films. Dans le sens où il y a certains jeux vidéo où les cinématiques sont très longues et très présentes.
Et insupportable.
Et insupportable. Je pense à Tomb Raider Anniversary qui est passé très vite parce que pour moi il n'y avait que des cinématiques dedans. Est-ce que justement ça vous fait pas peur que les gens n'aient plus ce même rapport aux jeux vidéo où on s'y perd, où justement on voit pas le temps passer tellement on est à fond dans le jeu, du fait que ça se soit coupé par les cinématiques qui transforment ça en une sorte de film en fait au final, tellement il y en a des fois en fait.
Ma théorie sur les cinématiques, c'est que vous avez un jeu avec une mécanique, et puis pour vous récompenser, l'histoire avance. Donc c'est un peu, bravo, vous avez fait ça, l'histoire avance. Or, comme tu l'as dit, c'est insupportable. Et effectivement, c'est un aveu d'échec, parce que si le jeu était bien, il n'aurait pas besoin d'une récompense artificielle. Tetris, il est bien, il n'a pas besoin d'une cutscene après Tetris, vous kiffez Tetris. Et donc, effectivement... Ça vous donne déjà un petit indice, c'est-à-dire un jeu qui a beaucoup de cutscenes, c'est peut-être un jeu qui n'a pas envie d'être un jeu. Voilà. Et effectivement, ça devient un film. La grande erreur des années 2000, c'est de vouloir avoir voulu faire des films avec des jeux, alors que, à mon sens, j'ai beaucoup d'ego, hein, j'ai un ego fantastique. Je pense que le jeu vidéo est au début et a vraiment beaucoup de choses à dire plus que les films, qui sont des choses très bien, mais il y a des choses formidables et il ne faut pas du tout se tourner vers les films. Voilà. Les films, c'est très bien, mais c'est autre chose.
William, pour finir ?
Non, c'est juste pour dire que ça ne me fait pas trop peur parce qu'en fait, c'est une catégorie de jeux bien précise, souvent avec beaucoup de budget qui fait ce genre de choses. Et comme il y a une telle diversité de jeux maintenant, il y a vraiment possibilité de trouver des jeux qui ne font absolument pas ça et qui vont, à l'inverse, être très soucieux de donner tout le temps du temps de jeu. Quoi, voilà. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il y a tellement de types de jeux maintenant que... C'est pas un problème. Les cinématiques sont plus vraiment un problème.
Je pense qu'on est malgré tout encore au début de ce que va devenir le jeu vidéo. On a encore énormément de choses à découvrir et à construire. Tout à l'heure, Dave parlait de grammaire du temps. Qui effectivement une des choses qui va forcément se créer, mais aussi effectivement la répartition, comment intégrer la narration, est-ce qu'on a besoin de cutscene ou pas. Certains jeux, ça va peut-être devenir une branche et du média, comme il existe au cinéma des films à gros budget, il existe des documentaires, c'est pas parce que les documentaires existent que les films à gros budget n'existent plus. Ils coexistent très bien et c'est pas un problème, et chacun sait quand il va voir un documentaire qu'il va regarder un documentaire et il sait ce qu'il va y trouver, et ça l'empêche pas éventuellement de regarder autre chose. Donc c'est toute la richesse de ce médias-là, on cherche encore beaucoup, je crois. On a encore plein de choses à découvrir avec vous. Et voilà, et c'est super passionnant, quoi.
On doit y aller. Merci à tous. Vous pouvez poursuivre la discussion avec nos invités si vous les croisez dans le salon.